Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous lire le chapitre 6 des 8 montagnes. Chapitre un peu long qu'on va couper en deux parties. Cet enregistrement est réalisé à l'attention de tous nos anciens en EHPAD et à l'hôpital, et tous les soignants qui les accompagnent. Dans le chapitre 5, Piero perd son papa, hérite d'une maison sur les hauteurs de Grana, qui n'est qu'une ruine. Il remonte à Grana où il retrouve Bruno, qui lui dit que l'intention de son père était de lui faire reconstruire cette maison. Et donc maintenant, chapitre 6, à la fin du printemps. La neige ne tarda pas à fondre cette année-là. Je revins à Grana au début du mois de juin, au beau milieu de la saison du dégel, avec l'eau qui gonflait le torrent et dégoulinait de partout, formant des cascades et ruisseaux éphémères que je n'avais encore jamais vus. On aurait cru l'entendre sous les pieds, cette neige qui fondait sur les montagnes et rendait la terre aussi molle que de la mousse jusqu'à 1000 mètres plus bas. Nous décidâmes d'ignorer la pluie qui n'arrêtait pas de tomber. Un lundi matin, à l'aube, nous prîmes chez Bruno une pelle, une pioche, une grosse cognée, une tronçonneuse et un demi-bidon d'essence, et montâmes avec notre chargement sur le dos à la barma, puisque c'est ainsi que nous avions commencé à appeler ma propriété. Il avait beau être de loin le plus chargé des deux, c'était moi qui devais m'arrêter toutes les 10 minutes pour reprendre mon souffle. Je posais mon sac à dos et m'asseyais par terre. Tout ce que mon père dans le temps m'avait appris à ne pas faire, et nous restions là en silence, évitant de nous regarder pendant que mon cœur ralentissait. En haut, la neige avait laissé place à la boue et à l'herbe morte. Aussi pouvais-je me faire une meilleure idée de l'état de cette ruine. Les murs semblaient tenir d'aplomb jusqu'à 1 mètre de hauteur, soutenus par des pierres angulaires que même à deux, nous aurions été incapables de déplacer. Mais passé ce 1er mètre, le mur le plus long flanchait vers l'extérieur, poussé par les poutres du toit qui étaient tombées, et ceux sur les côtés étaient tout de travers, les dernières rangées de pierres en équilibre instable à hauteur d'homme. Bruno dit que nous allions devoir tout reprendre depuis le début ou presque. Inutile de perdre du temps à redresser des murs tordus. Il valait mieux les démolir et les reconstruire de zéro. Mais avant, il fallait préparer le chantier. À 10 heures du matin, nous entrâmes dans le chalet et commençâmes à le débarrasser des débris qui s'étaient entassés à l'intérieur. Il y avait surtout des planchettes en bois, celles qui avaient un temps été les bardeaux du toit, mais aussi des lames de l'ancien plancher qui séparait le rez-de-chaussée du premier étage. Et au milieu de ce bois trempé, des poutres longues de 6 ou 7 mètres, encore encastrées dans les murs ou enfoncées dans la terre. Certaines avaient résisté à l'eau et Bruno essayait de voir s'il pouvait en tirer quelque chose. Nous eûmes toutes les peines du monde à dégager le bois récupérable et à le sortir, en le faisant glisser par-dessus les murs sur 2 planches inclinées. Le reste était débité et mis à brûler. À cause de ses doigts coupés, Bruno avait appris à utiliser une tronçonneuse de gaucher. Il bloquait le tronc avec le pied et travaillait à la pointe de la lame, à quelques centimètres de la semelle de sa chaussure, soulevant un nuage de copeaux derrière lui. Un bon parfum de feu de bois se répandait alors dans l'air. Puis la bûche tombait et j'allais la ramasser pour la mettre par-dessus les autres. La fatigue ne tarda pas à se faire sentir. J'étais encore moins habituée à l'effort des bras qu'à celui des jambes. À midi, nous sortîmes couverts de poussière et de sciure. Sur la grande balme séchaient 4 beaux troncs de mélèze abattus l'année d'avant. Ils deviendraient tôt ou tard les poutres du nouveau toit, mais en attendant, j'en utilisais un pour m'asseoir. « On n'a pas commencé, dis-je, et je suis déjà fatiguée. »« Bien sûr que si qu'on a commencé, dit Bruno. » Il nous faudra 1 semaine rien que pour tout sortir et tomber les murs et faire de la place tout autour. Peut-être, on ne peut pas savoir. Pendant ce temps, il avait construit un foyer avec des pierres et allumé un petit feu avec des chutes de bois. tout transpirant que j'étais, c'était aussi pour moi un réconfort de pouvoir sécher devant le feu. Je fouillais dans mes poches, trouvais mon tabac et roulais une cigarette. Je lui tendis mon paquet et il me dit « Je sais pas faire, si tu me la roules, je peux essayer. » Quand je la lui eus allumée, il dut contenir sa toux. Ça se voyait qu'il n'avait pas l'habitude. « Ça fait longtemps que tu fumes ?» demanda-t-il. « J'ai commencé ici, un été. Je devais avoir, je sais pas moi, 16 ou 17 ans. Ah bon ? Je t'ai jamais vu avec une cigarette. C'est parce que je fumais en cachette. J'allais dans la forêt pour ne pas me faire voir, ou sur le toit de la maison. Et de qui tu devais te cacher ? De ta mère ? Je sais pas, je me cachais, c'est tout. » Bruno tailla en pointe deux bouts de bois avec son canif. Il sortit un morceau de saucisse de son sac, la coupa en tranches, les enfila sur ses brochettes et les mit à rôtir. Il avait aussi pris du pain, une miche noire dont il fit deux grosses tranches et m'en tendit une. Il dit « Tu sais, l'important, c'est pas le temps que ça prend. Vaut mieux pas trop penser à l'avenir dans ce métier, autrement on devient fou. Alors à quoi je dois penser ? À maintenant. Elle est pas belle cette journée ?» Je regardais autour de moi. Il fallait une certaine dose de bonne volonté pour la décrire ainsi. C'était une de ces journées de fin de printemps, celle où le vent n'arrête pas de souffler en montagne. Des bancs de nuages allaient et venaient, cachant le soleil, et l'air était encore froid comme si un hiver têtu refusait de quitter le devant de la scène. Le lac en contrebas ressemblait à de la soie noire, avec le vent qui la dentelait, ou qui, au contraire, faisait tout sauf de la dentelle. Il posait une main glacée qui effaçait les plis. J'eus envie de tendre les miennes en direction du feu et de les y laisser pour lui voler un peu de chaleur. L'après-midi, nous continuâmes de sortir les décombres et finîmes par découvrir ce qu'il cachait. Une charpente qui indiquait clairement la nature de l'édifice. D'un côté, contre le mur tout en longueur, nous trouvâmes les mangeoires. Et au centre de la pièce, une petite fosse qui avait servi à l'écoulement du purin. C'étaient des planches de 3 doigts d'épaisseur, polies par le frottement répété des mufles et des sabots. Bruno dit que nous pourrions les laver et nous en servir pour construire autre chose. Et avec sa pioche, il commença à faire levier pour les soulever. Je vis un objet par terre et le ramassai. C'était un cône de bois lisse et creux, semblable à la corne d'un animal. « C'est pour la pierre de la faux, » dit Bruno quand je la lui montrais. « La pierre de la faux ? C'est une pierre qui sert à affiler la faux. Elle avait certainement un nom, mais qui se le rappelle encore ? Il faudrait que je demande à ma mère. Je crois que c'est une pierre de fleuve. » « De fleuve ? » J'avais l'impression d'être un enfant auquel il fallait tout expliquer. Il faisait preuve d'une patience infinie devant mes questions. Il me prit la corne des mains et l'appuya contre sa hanche, puis expliqua. « C'est une pierre polie et ronde, presque noire. Il faut la mouiller pour bien l'utiliser. Ça, tu l'accroches à ta ceinture avec un peu d'eau pour mouiller la pierre et passer le fil de temps en temps quand tu fauches, comme ça. » Avec le bras, il fit un geste ample et harmonieux, dessinant un arc de cercle au-dessus de nos têtes. Je vis clairement la faux imaginaire et la pierre imaginaire qui la filait. C'est à cet instant seulement que je me rendis compte que nous étions en train de répéter l'un de nos jeux préférés. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Nous qui avions été si souvent dans des ruines comme celle-là, nous nous faufilions dans les fentes des murs qui menaçaient de s'écrouler. Nous marchions sur des planches qui branlaient sous les pieds. Nous volions de la ferraille et faisions comme si c'était des trésors. Nous l'avions fait pendant des années. Petit à petit, je commençais à voir d'un autre œil l'aventure dans laquelle nous nous étions embarqués. Jusque-là, j'avais cru être venu uniquement pour mon père, pour honorer ses dernières volontés, pour expier mes fautes. Mais en regardant Bruno affiler sa faux imaginaire, l'héritage que j'avais reçu me fit davantage l'impression d'une réparation ou d'une deuxième chance pour notre amitié interrompue. C'était donc ça que mon père avait voulu m'offrir ? Bruno jeta un dernier coup d'œil à la corde, puis la lança dans le tas de bois à brûler. J'allais la repêcher et la mis de côté, convaincu que je lui aurais trouvé une utilité. Je fis de même avec le pin sans broue qui était né entre les murs. À 5 heures, comme j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit, je piochai la terre autour de l'arbuste et réussis à l'extirper avec ses racines. Le tronc était frêle et tordu d'avoir poussé comme il avait pu, en se frayant un chemin vers la lumière parmi les décombres. Ses racines nues lui donnaient un air moribond et je me hâtais de le transplanter dehors. Je creusai un trou au bord de la terrasse, là où on avait la meilleure vue sur le lac, et l'installai là. Je recouvris les racines de terre en tassant le sol avec application. Mais dès que j'eus lâché l'arbuste, le vent, auquel il n'était pas habitué, commença à le faire valser de tous côtés. Il me fit l'effet d'une créature trop fragile, longtemps protégée par les pierres et soudain livrée aux éléments. « Tu crois qu'il va tenir le coup ?» demandai-je. « Ah ça, » dit Bruno, « le sambro, c'est vraiment une plante bizarre. Elle est forte pour pousser là où elle pousse, mais elle flanche dès qu'on la met ailleurs. Tu as déjà essayé ? Ça m'est arrivé quelquefois. Et comment ça s'est fini ? Mal. Il regarda par terre, comme il faisait quand il repensait à une vieille histoire. Il dit : Mon oncle voulait un sambro devant chez lui. J'ai jamais su pourquoi. Peut-être qu'il imaginait que ça portait chance. Ça aurait pas été du luxe, faut dire. Du coup, chaque année, il m'envoyait en montagne en chercher un. Mais il se trouvait toujours piétiné par les sabots des vaches, alors on a fini par laisser tomber. Comment vous l'appelez, vous ? Le sambro ? On dit Arula. Ah oui. Et c'est vrai qu'il porte bonheur ? C'est ce qu'on dit. Si tu y crois, peut-être. Porte bonheur ou pas, j'y tenais à ce petit arbre. Je plantai un bâton robuste à côté du tronc et l'attachai à plusieurs endroits avec de la ficelle. Puis j'allai au lac remplir ma gourde d'eau pour l'arroser. À mon retour, je vis que Bruno avait construit comme une plateforme sous la grande paroi rocheuse. Il avait couché par terre 2 poutres de l'ancien toit et cloué dessus quelques planches de récupération. Il prit dans son sac une cordelette et une bâche imperméable, de celles qu'on utilisait à Grana pour couvrir les bottes de foin dans les champs. Avec des piquets en bois, il attacha 2 coins à une fissure dans la roche et 2 autres au terrain, obtenant ainsi un auvent sous lequel il rangea son sac à dos et les provisions. « Les affaires, on les laisse là ?»« On les laisse pas, je reste. »« Comment ça, tu restes ?»« Je reste dormir. »« Tu vas dormir ici ?» Cette fois, il perdit patience et me répondit d'un ton brusque. « Tu crois quand même pas que je vais perdre 4 heures de travail par jour ? Le maçon garde le chantier du lundi au samedi. Le manœuvre monte et descend avec la marchandise. C'est comme ça. » Je regardais le bivouac qu'il venait d'installer. Voilà qui expliquait enfin pourquoi son sac à dos était aussi rempli. « Et tu comptes rester dormir ici 4 mois ? 3 mois, peut-être 4, le temps qu'il faudra. » C'est l'été. Et le samedi, je descends et je dors dans un lit. Mais dans ce cas, je ferais pas mieux de rester, moi aussi ? Peut-être plus tard. Il reste beaucoup de matériel à monter. J'ai emprunté un mulet. Bruno avait réfléchi longuement au travail qui nous attendait. Moi, j'improvisais. Lui, non. Il avait planifié chaque étape. Mon cahier des charges et le sien. L'étang et les déplacements. Il m'expliqua où il avait préparé le matériel et ce que j'allais devoir monter le lendemain. Sa mère me montrerait comment charger le mulet. Il dit « Je t'attends le matin à 9 heures. À 6 heures, t'es libre. Si t'es toujours partant, hein ?»« Bien sûr que je suis partant. Tu penses que tu vas y arriver ?»« Mais oui. Alors, ciao !» Je regardais ma montre. Il était 6h30. Bruno prit une serviette et un bout de savon et partit plus haut se laver dans quelques coins qu'il connaissait. J'observais la baraque, qui ressemblait en tout point à celle que nous avions trouvée le matin, mis à part l'intérieur vide et le beau tas de bois dehors. Je me dis que ce n'était pas si mal que ça pour un premier jour de chantier. Puis j'endossai mon sac, saluai mon petit arbre et repris le chemin pour Grana. Il y avait une heure que j'aimais plus que les autres en ce mois de juin, et c'était justement celle où je descendais seule à la fin de la journée. Le matin, c'était autre chose. J'étais pressée, le mulet refusait d'obéir, je ne pensais qu'à arriver. Le soir, je n'avais aucune raison de courir. Je partais à 6-7 heures, avec le soleil encore haut, au fond du vallon. J'avais de la lumière jusqu'à 10 heures et personne ne m'attendait à la maison. Je marchais tranquillement, avec la fatigue qui engourdissait mes pensées et le mulet qui me suivait sans que j'aie à m'en soucier. Du lac à l'Ébouli, les flancs de la montagne fleurissaient de rhododendrons. À l'alpage des Guglielmines, autour des baïtées désertes, je surprenais des chevreuils en train de brouter l'herbe des prairies désaffectées. Ils dressaient leurs oreilles et me scrutaient, alarmés, avant de s'enfuir dans le bois comme des voleurs. Parfois, je m'y arrêtais fumer. Pendant que le mulet paissait, je m'asseyais sur la souche de mélèze où la photo de Bruno et moi avait été prise. J'observais l'alpage et l'étrange contraste entre la désolation des choses humaines et la vigueur du printemps. Les trois baïtées dépérissaient. Leurs murs se voûtaient comme le dos des vieillards. Les toits cédaient sous le poids des hivers. Et tout autour, les herbes et les fleurs sourdaient. J'aurais bien aimé savoir ce que faisait Bruno à cette heure-là. Avait-il allumé son petit feu ? Se promenait-il seul dans la montagne ? Continuait-il de travailler jusqu'à la nuit tombée ? À bien des égards, l'homme qu'il était devenu me surprenait. J'avais imaginé trouver peut-être pas le portrait craché de son père, mais au moins celui de ses cousins ou d'un des maçons qui, dans le temps, s'asseyait à côté de lui au bar. Mais il n'avait rien à voir avec eux. On aurait dit quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, avait renoncé à la compagnie des autres. S'était trouvé un coin de monde et s'y était retranché. Il me rappelait sa mère. Je la rencontrais souvent ces jours-là, les matins où je faisais le plein de matériel. Elle m'expliquait comment attacher le bas, assurer les outils ou les planches au flanc du mulet, les prenait quand il refusait d'avancer. Mais elle n'avait pas dit un mot sur mon retour, ni sur ce que j'étais en train de faire avec son fils. Petit déjà, j'avais l'impression qu'elle ne s'intéressait à rien de nos vies, qu'elle était bien là où elle était et que les autres défilaient devant elle comme les saisons. Je me demandais si elle ne cachait pas des sentiments totalement opposés. Je reprenais le sentier le long du torrent et arrivais à Grana quand il faisait presque nuit. J'attachais le mulet en bas de chez moi, allumais le poêle et mettais une casserole d'eau sur le feu. Je pouvais ouvrir une bouteille de vin si j'avais pensé à me ravitailler. Dans le garde-manger, je n'avais que des pâtes, des conserves, deux ou trois boîtes pour dépanner. Au bout de deux verres, je me sentais mort de fatigue. Parfois, je jetais les pâtes dans l'eau bouillante et m'endormais pendant qu'elles cuisaient. Et je me réveillais devant la casserole en pleine nuit, avec le poêle éteint, la bouteille sifflée à moitié, mon dîner réduit à une bouillie infâme. J'ouvrais alors une boîte de haricots et en dévorais le contenu avec une cuillère, sans même prendre une assiette. Puis je m'allongeais sur mon matelas sous la table, me glissais dans mon sac de couchage et sombrais à nouveau dans le sommeil. Bonne fin de journée! Je vous retrouve pour la deuxième partie du chapitre 6 sur Globule Radio 90.5 FM. C'était Chantal Hébert pour Je vous emmène.